6h50.
Les enjeux internationaux.
Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Guillaume Erner. Donc, comme prévu par-delà le dernier G7 au Japon, à la fin de la semaine dernière, on va en profiter pour voir le rôle des sommets internationaux. En règle générale, notre invité Philippe Moreau-Defarge, bonjour.
Bonjour Thierry Garcin.
Alors, vous êtes chercheur à l'IFRI, grand spécialiste justement des relations internationales. Alors, peut-être une petite remarque qui n'a pas l'air liminaire, mais qui n'a pas l'air qu'anecdotique, c'est le côté littéralement athlétique de tous ces déplacements en chaîne aux antipodes des grands dirigeants. On se demande dans quel état ils arrivent, dans quel état ils repartent, et puis s'ils seront demain au Brésil, après-demain en Australie, etc. Bon, bref. Et deuxièmement, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le poids du contexte et puis les priorités intérieures des chefs d'État et de gouvernement. Par exemple, on le voit avec la visite du président Obama à Hiroshima, et puis avec évidemment la situation intérieure du premier ministre japonais qui s'oriente de plus en plus vers une remilitarisation du pays. Et puis alors, il y a aussi une troisième chose comme remarque liminaire qui est intéressante, c'est ces sommets sont de plus en plus fourre-tout, les thèmes sont de plus en plus variés. Ce n'est pas nouveau d'ailleurs, mais enfin c'est une tendance lourde. Et quel regard est-ce que vous portez sur le dernier G7 au Japon?
Alors, je vais répondre à vos trois questions. La première question, c'est le côté athlétique de ces sommets.
Ah oui.
Écoutez, tous les patrons de la planète, que ce soit des hommes d'affaires, que ce soit des chefs d'État, vivent ce genre de vie. Ils doivent circuler en permanence pour rester en contact. Donc ça fait partie de la règle du jeu. Deuxièmement, vous liez ces sommets à la politique intérieure, et vous avez tout à fait raison. Si vous voulez, notamment le G7 n'a plus beaucoup de sens. Hein. Le G7 n'a plus beaucoup d'utilité. Donc, il faut lui retrouver une utilité. Et le moyen de lui retrouver une utilité, c'est de lui donner un rôle par rapport aux politiques intérieures, de permettre à un Premier ministre, à un chef de gouvernement, de présenter son programme, et surtout si le sommet a lieu dans le pays où il reçoit les autres chefs d'État et de gouvernement. Donc, on le voit bien. Dernière chose, sommet fourre-tout, oui et non, vous avez raison, mais si vous voulez, c'est l'occasion pour ces chefs d'État et de gouvernement de parler entre eux. Donc, ils parlent de tous les sujets d'actualité.
Mais c'était déjà le cas, d'ailleurs, dans sa première formation dans les années 70, ça a dû commencer par le G5, si mes souvenirs sont bons, ou le G6, et déjà on parlait de sécurité, alors que c'était un agenda, comme disent les Américains, économique, et on parlait déjà de sécurité au sens stratégique du terme.
Vous avez raison, mais lorsque le premier sommet, le G7, le G5 a été créé à Rambouillet en 1975 par le président Valéry Giscard d'Estaing, là, l'actualité était dominée par les chocs pétroliers. Donc, ils ont parlé des chocs pétroliers, mais les chocs pétroliers, c'est à la fois de l'économique et des politiques. C'est très difficile de séparer l'économique et les politiques. En outre, il faut justifier l'utilité de ces sommets. Or, si ces sommets ne parlent pas des questions d'actualité, à quoi servent-ils? Dans les années 80, je vous rappelle, ces sommets étaient dominés par la crise des euromissiles. Si le G7 du début des années 80 n'avait pas parlé des euromissiles, à quoi servait-il? Donc, on voit bien que ces sommets sont un peu obligés de saisir l'actualité telle qu'elle leur passe sous les yeux.
Alors, Philippe Moreau-Defarge, il faut dire aussi, c'est une évidence, que le G7 actuel, c'est le G8 moins 1.
Oui, alors...
La Russie.
Ah oui, alors attendez, rappelons l'histoire de la Russie. D'abord, l'Union soviétique de Gorbatchev a été intégrée au dernier moment dans le G7 qui a demandé à ce moment-là de le G8. Pourquoi on a fait rentrer l'URSS? Parce que on voulait, contrairement à ce qu'on croit, l'Occident voulait sauver l'URSS. Et c'était un moyen de sauver l'URSS en associant Gorbatchev à un strapontin. Deuxièmement, la Russie n'a jamais eu vraiment un siège. Elle a eu un peu un strapontin. Elle participait à certaines sessions et pas à toutes les sessions.
Et notamment pour ce qui concerne le domaine politique, ça a été très tardif de la part
Écoutez, la participation de la Russie au G7, G8 n'a pas beaucoup de sens. C'est l'une des plus petites économies du monde. Je crois que l'économie russe, c'est l'équivalent de l'économie des Pays-Bas. Donc, c'est une économie importante.
Ou du Brésil, à peu près, oui.
Du Brésil, à peu près. Donc, il n'y avait pas de raison économique d'avoir la Russie dans le G7. Et donc, c'est vraiment pour des raisons politiques qu'on a pris. Alors, comme vous le savez, la Russie a été mise à la porte du G7, G8 à cause de l'affaire de l'annexion de la Crimée. Bon, voilà. Mais c'est vrai que le problème de fond, c'est la composition de ces sommets. À nouveau, aujourd'hui, quel est le sommet pertinent? Le G7 était pertinent dans la mesure où il représente les pays occidentaux. Et il reste pertinent dans la mesure où il représente, disons, les grandes démocraties occidentales. Mais est-ce que l'enceinte pertinente ne serait pas plutôt le G20 qui essaye de représenter tous les colosses de la planète? Mais est-ce que le G20 lui-même est tout à fait pertinent alors qu'il va laisser d'autres acteurs hors du G20.
Alors le G20, c'est intéressant, il est en grande partie dû quand même à l'effet dévastateur de la crise économique mondiale à partir des années, on est en 2016, donc vers 2008 à peu près, oui. 2007-2008, et en fait il se réunit souvent la plupart du temps à 25 d'ailleurs, parce qu'il invite beaucoup de pays émergents.
Oui, D'ailleurs, attendez, le fameux G7 n'est pas à 7, puisque vous avez dit qu'il y a deux présidents qui se bousculent au G7, et en principe qui ne sont pas du G7, c'est le président de la Commission européenne et le président du Conseil européen qui tiennent à être là. Donc, pour revenir à votre question, oui, le G20, comme le G7, est l'enfant de la crise. Le G5, G7 est l'enfant des chocs pétroliers des années 70. Le G20, vous avez tout à fait raison, est l'enfant de la crise des prêts immobiliers en 2007-2008. C'est tout à fait logique, si vous voulez. Il faut qu'il y ait un événement qui provoque cette rencontre. Cela dit, l'idée du G20 était dans l'air depuis longtemps parce que...
Oui, ministre des Finances. Il se réunissait au niveau du ministre des Finances depuis... Alors là aussi, sauf erreur, j'ai pas eu le temps de voir, depuis 99, si mes souvenirs sont bons.
Exactement. Parce qu'on s'est bien rendu compte qu'aujourd'hui, quelles sont les économies qui comptent? Prenez un exemple. Une réunion au sommet sans la Chine, en termes économiques, je parle pas en termes politiques, une réunion au sommet sans la Chine aujourd'hui, en termes économiques, ça n'a plus de beaucoup de sens. La Chine est l'une des économies majeures du monde. Donc, pourquoi un G7 sans la Chine et avec la Russie? Là aussi, il y a une véritable question et qui va être débattue, mais c'est vrai que ça prendra beaucoup de temps parce qu'il y a une contradiction entre avoir un G7, enfin un G, un sommet aussi représentatif que possible, donc à la limite tous les États de la planète, et un G X efficace, donc limité à entre 5 et 10 États au maximum.
Oui, G d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, ça veut dire groupe hein, dans ce cas-là.
Exactement.
Oui,
exactement.
Et alors, il y a la question des résolutions qui sont adoptées, on l'a vu pour les G20, c'était des résolutions tout à fait intéressantes sur la lutte contre la spéculation la plus effrénée, c'est sur l'environnement, sur les paradis fiscaux, etc. Et qu'est-ce qu'il en reste finalement? Quelle part accorder à la mise en œuvre de ces résolutions?
Pas grand-chose. D'ailleurs, le grand problème, c'est que le but pratique de ces réunions, ce serait une coordination des politiques économiques. Et là, on a beaucoup de mal à parvenir à cette coordination des politiques économiques, parce qu'il y a des divergences de conception très fortes au sein du groupe même, et puis c'est compliqué à mettre en... Mais il y a eu des périodes où ça fonctionnait à peu près. Il y a eu une période où ça a marché assez bien, c'est dans les années 80, dans la seconde moitié des années 80, au moment des accords du Blue, des accords du Plaza, et des accords du Plaza et du Blue, ça a relativement bien marché. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, il y avait un véritable intérêt commun à stabiliser les devises internationales. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, et donc c'est d'autant plus compliqué que on n'a pas encore trouvé l'ensemble parfaitement pertinente et parfaitement efficace.
Alors c'est toujours mieux en même temps, on peut dire du mal de ces G, de ces regroupements momentanés ou même institutionnalisés, mais en même temps c'est toujours mieux de se rencontrer, de s'asseoir à la table que de claquer les portes.
Mais bien sûr, vous savez que certaines personnes disent avec moi, à quoi ça sert un G7 ou un G20? Ça sert à ce que chaque chef d'État regarde l'autre et dit, oh, comme il a vieilli, comme il est moins bien qu'avant, comme il est désordre, etc. Il y a une espèce de jeu d'observation mutuelle, et puis c'est un moyen de se connaître. Hein. Vous savez, ils se parlent par leur prénom. Vous savez, il y a tout un rituel un peu à l'américaine où on se parle par son prénom, et c'est important que ce genre de choses ait lieu. Et puis, il faut montrer que c'est utile. Donc, pour revenir à votre question sur les résolutions, il faut adopter des textes en principe utiles, même s'il n'y a pas beaucoup de conséquences concrètes de ces textes.
Et puis, peut-être, il faut dire aussi une chose, c'est qu'on ne le sait pas, mais on peut l'imaginer, ce qui est le plus important, c'est ce qui se dit en privé, en vis-à-vis, dans un couloir.
Mais bien sûr. Les conversations de couloir sont importantes. Et puis, alors, si vous voulez, c'est des conversations à la fois dans les couloirs, et puis à multiples niveaux, il y a les rencontres de chefs d'État et de gouvernement, il y a les rencontres de Sherpa, il y a les rencontres de fonctionnaires, il y a les rencontres, etc. Il y a tout un jeu. Et je dirais, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance planétaire, c'est-à-dire cette espèce de conversation permanente des responsables pour tenter d'arriver à un accord. Alors, dernière chose qu'il faut avouer, c'est que ces réunions sont d'autant plus importantes que aujourd'hui, ces chefs d'État et de gouvernement sont dans un grand désarroi. En fait, ils ne savent pas très bien quoi faire. On le voit dans le domaine de l'emploi, du chômage, de l'emploi des jeunes, même des crises de migrants. Donc, du service se rencontrer, c'est un peu se rassurer, se dire, au fond, l'autre ne fait peut-être pas aussi bien que moi, ou ne fait pas mieux que moi. Donc, il y a un phénomène de se rassurer mutuellement, comme dans les moments révolutionnaires, où les nobles se réunissaient entre eux pour se rassurer en disant, le vieux monde n'est pas terminé.
Merci beaucoup de cet éclairage, Philippe Pourreau-Defarge. Vous êtes chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Nous nous retrouvons demain, donc, 6h50, franceculture.fr, pour écouter l'émission. La télécharger.